Bon, bonjour à tout le monde, une joie d'être ici. Comme vous savez, peut-être nous sommes de retour pendant une semaine. Nous habitons maintenant à Goussainville, dans le Val d'Oise. Peut-être cet après-midi, si je trouve, je vous montrerai une photo pour vous montrer vraiment où c'est par rapport à l'aéroport de Charles de Gaulle, mais c'est vraiment juste à deux pas des pistes. Et nous sommes là avec la famille Cole aussi, Michael, Elisabeth et les enfants. Et nous travaillons actuellement avec l'église baptiste de Saint-Denis, dans la Seine-Saint-Denis, dans le 93, avec le désir de commencer une œuvre quelque part dans le Val d'Oise, soit à Sarcelles, soit à Gonesse, pas loin de l'aéroport. Et en contemplant tout cela, c'est comme si nous sommes face à un grand mur, le mur de l'impossibilité. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va faire? Et deux choses qui ont été et qui sont, parce que je dois me rappeler assez souvent de ces choses, un réconfort pour moi, c'est deux versets. D'abord dans les évangiles où Jésus a dit, c'est moi qui bâtirai mon église. Donc en fait, c'est l'œuvre de Christ avant tout. Nous devons faire notre part, nous devons œuvrer et travailler, mais c'est Christ qui fera l'impossible. C'est lui qui va faire ce que nous ne pouvons pas faire. Et l'autre chose qui nous a aidé, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, où Jésus dit, enfin, c'est Paul qui parle, mais il parle de Jésus-Christ, et il parle de l'Église que Christ a acquise par son propre sang. Donc, si on a payé cher pour quelque chose, on va le chérir, on va le garder, on va le protéger, on va l'aimer. Et la pensée qui m'aide, c'est de savoir que Dieu et Jésus-Christ aiment l'Église beaucoup plus que je ne pourrais. Et il a payé beaucoup plus cher que je le pourrais. Et donc, en fin de compte, ce sont des fardeaux qui demeurent sur ses épaules et pas les miennes. Et donc nous ne savons toujours pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais nous prions que Dieu nous guide pas à pas et qu'il nous dirige. J'espère que la même chose sera un réconfort pour vous aussi, et l'Église ici que Jésus aime de tout son cœur. Nous allons regarder ensemble en Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3 et le verset 9, verset 10, pardon. Les anciens de l'église à Saint-Denis ont choisi, je crois, avant même notre arrivée, un thème pour l'église pour la rentrée. Et le thème qu'ils ont choisi, c'est connaître Jésus-Christ et le faire connaître. Donc tout autour de ce thème de connaître Jésus et puis de le faire connaître. Si vous avez un stylo de cette église ici à Pessac, vous voyez cette même devise. Connaître Christ et le faire connaître. Et donc il désirait que on aborde des textes qui ont à faire avec cette idée de connaître Christ. Comment connaître Christ? Qu'est-ce que ça veut dire de connaître Jésus-Christ? Et donc, en considérant ce thème, j'ai pensé à Philippiens 3, 10, qui aborde exactement ce sujet. Et puis, j'ai réalisé que le dernier message que j'avais prêché à Pessac était Philippiens 3, 9. Donc, c'était le verset juste après. Donc, j'ai dit, bon, j'ai déjà mon message pour quand je rentre sur Pessac. On a besoin de simplement continuer notre étude en Philippiens. Et donc je veux lire ce beau chapitre. On va commencer avec le premier verset, Philippiens chapitre 3. Le premier verset, essayez de suivre la pensée de l'apôtre Paul, qui écrit à une église qu'il a vraiment à cœur, qu'il aime beaucoup, et qui parle de la vie de réjouissance et la vie de joie. Philippiens chapitre 3 et le premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, et par cela il veut dire les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Et puis, il souligne ce qu'il vient de dire en apportant son propre témoignage. Il va parler, en fait, de son propre témoignage du salut. Verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Et puis il va nous dire pourquoi dans le verset 5. Eh bien, circoncis le huitième jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, donc très strict dans sa religion, quant au zèle, verset 6, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Voilà ce qu'il était. Mais, verset 7, ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, verset 8, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue maintenant, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. C'est-à-dire, il parle du grand jugement devant Dieu, d'être trouvé en lui, c'est-à-dire en Jésus, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Et je peux ajouter que c'est dans cela que le chrétien est différent que tous les autres. Parce que tous les autres veulent et désirent se présenter devant Dieu avec tout ce qu'ils ont de bien pour démontrer à Dieu tout ce qu'ils ont fait. Ils espèrent mourir un peu quand ils sont en train de faire quelque chose de bon pour Dieu. Mais Paul ne voulait pas le trouver devant Dieu avec ses justices et avec ce qu'il a fait. La justice qui vient de la loi, c'est-à-dire en gardant la loi. Il voulait être trouvé en Christ avec, regardez le verset 9, la justice, celle qui s'obtient par la foi en Christ. C'est-à-dire la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc ce qui lui est offert par la foi. Et verset 10. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Prions encore un instant, demandant l'aide de Dieu. Seigneur, notre Père, c'est le philosophe et sociologue Eric Hoffer, qui est né à New York, mais il est fils d'immigrés d'Alsace. Il a dit dans un livre daté 1967, et je cite, « La nature d'une société est largement déterminée par la direction dans laquelle vont le talent et l'ambition, par ce qu'il appelait l'inclinaison du paysage social. » Ce que cet homme voulait dire par cette citation était assez connu, C'est, si vous voulez savoir ce qui sera une société demain, eh bien, regardez aujourd'hui déjà ses ambitions. Où est-ce que les gens, les individus, mettent leur temps, leur argent, leur passion? Eh bien, c'est dans cette direction que va la société. Et si cela est vrai pour une société tout entière, n'est-ce pas vrai aussi pour une personne individuelle? On peut connaître la nature d'une personne en regardant ses ambitions. Alors, quelles sont vos ambitions dans la vie? Peut-être elles sont-elles promulguées par un certain M. Conwer, qui entre 1877 et sa mort en 1925, il a prononcé le même discours plus de 6000 fois. Imaginez prononcer exactement le même discours plus de 6000 fois. Et sa phrase la plus célèbre dans ce discours était celle-ci. Êtes-vous prêts pour cela? Il a dit, « L'argent, c'est le pouvoir, et vous devriez être raisonnablement ambitieux de l'avoir. » C'est pour ça qu'il était tellement aimé, tellement connu, pourquoi on lui demandait de venir faire son discours? Parce que son message était que l'argent, c'est le pouvoir, et que vous devriez être raisonnablement ambitieux de l'avoir, c'est-à-dire d'avoir l'argent dans la vie. Et cette philosophie lui a gagné des milliers d'amis dans des endroits où l'apôtre Paul n'aurait jamais pu donner de discours. Mais Paul était un homme ambitieux. Il avait une ambition qui lui contrôlait toute sa vie, avant son salut et aussi après son salut, quoiqu'elle a beaucoup changé. Et après son salut, l'ambition qu'il avait, c'est la même ambition que tout chrétien joyeux a encore aujourd'hui. Et donc je voudrais que nous observions à partir de l'Écriture les ambitions donc d'un chrétien heureux. Et je vous rappelle que ce chapitre a pour thème la vie de joie, on pourrait dire, la vie de joie du chrétien. Et tout ce qui est dit, je crois, est intimement lié à la première phrase du chapitre. Est-ce que vous l'avez noté? Il dit, tout au début du chapitre, « Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. » C'est un peu le thème de ce qui va développer dans le chapitre. Et les 7 premiers versets que nous venons de lire parlent de ce début, de ce commencement d'une vie de réjouissance. Et ce commencement se résume dans le dernier verset de cette partie, le verset 7. Regardez Philippiens 3, 7. « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. » C'est comme ça qu'il est entré dans la foi chrétienne, qu'il est venu à Christ. Il a pris toutes ces choses qui étaient pour lui sa vie, son gain, son honneur, sa gloire, son orgueil. Et il les a regardées comme une perte afin d'avoir Jésus-Christ. Il y a un prédicateur anglais qui a dit il y a plus d'un siècle, le vrai sens d'être chrétien, c'est qu'en réponse pour un don d'un Christ tout entier, je me donne tout entier à lui. Et c'est ce que nous voyons dans ces premiers versets. Christ se donne tout entier à Paul, et Paul se donne tout entier à Christ. Christ perd tout pour sauver Paul. Nous avons vu ça au chapitre 2. Il va laisser sa gloire, il va s'humilier, il va aller jusqu'à la croix pour sauver l'homme. Et Paul, maintenant, veut perdre tout pour connaître Jésus-Christ. Et donc, les versets 8 et suivants nous disent comment maintenir une vie de joie, une vie de vraie satisfaction, d'épanouissement, où sa coupe est pleine. Et je dis cela parce qu'il parle de maintenir sa vie de joie, parce que le temps du verbe a changé. Paul écrit maintenant quelques 25 ans après sa conversion, et ici il parle plus de il y a 25 ans quand il est venu à Christ, mais de son opinion à l'époque même où il rédigeait cette lettre. Et ça révèle le fait que ses estimations, les estimations qu'avait Paul de la valeur du Christ d'un côté, et puis de l'inutilité de ses œuvres de l'autre, n'avaient pas changé. En fait, ils sont devenus plus intenses. Il avait une plus grande valeur et estimation de Jésus-Christ et un plus grand dégoût de l'autre côté de ses propres œuvres qu'il avait faites lui-même. Regardez le verset 8. « Et même je regarde, c'est-à-dire aujourd'hui, en tant que chrétien depuis 25 ans, enchaîné comme il était à l'époque à Rome en tant que prisonnier pour Christ même, mais je regarde toutes choses encore aujourd'hui comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, en fait ça veut dire que j'ai tout perdu, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. J'ai tout perdu afin de gagner Christ. Et donc maintenant qu'il a Christ, notez les grandes ambitions de la vie de Paul, de Paul pour sa vie. Et je crois que ces ambitions se répartissent en trois catégories, une par verset. Ce sont des choses qui motivaient Paul. Ce sont des choses qui le passionnaient. Regardez le verset 9. D'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Donc cette première grande ambition concernait sa justification. Vous le voyez, le mot justifier veut dire déclarer juste devant Dieu, entendre Dieu dire tu es juste. Paul parle de la justice dans ce verset et le fait d'être trouvé juste ou justifié. C'est un très beau verset. On a mis tout un message à le découvrir. Je crois que c'est un très beau verset, surtout pour ceux qui ont un arrière-plan du salut par les œuvres, qui pensent que c'est par les œuvres qu'on est sauvé. Nous voyons que pour Paul, en tout cas, ça, c'était pas sa vue des choses. C'était pas par ses œuvres qu'il voulait être sauvé. Regardez le verset 10 maintenant. Afin de connaître Christ et la puissance, c'est-à-dire et connaître la puissance de sa résurrection et connaître la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Ici, regardez le verset 8, il parle de la connaissance de Christ, connaître la puissance de Christ, avoir la communion avec Christ, être conforme à Christ. Toutes ces choses parlent de sa sanctification, ce que nous appelons souvent la sanctification. Et puis le verset 11, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Voici son ambition concernant sa glorification. Alors, qu'est-ce qui rend Jésus-Christ tellement plus précieux que toutes les autres choses de la vie? Eh bien, parce qu'avoir Christ signifie une justification complète. Avoir Christ signifie une sanctification continue, ça c'est le verset 10. Et avoir Christ signifie une glorification promise, ça c'est le verset 11. Donc, quand vous avez Christ, vous avez toutes ces choses. Vous avez une justice à laquelle Dieu va dire, ben c'est juste, vous avez le droit d'entrer au ciel, parce que ce n'est pas votre propre justice, c'est la justice de Christ qui vient par la foi. Et puis vous avez une communion, une connaissance de Jésus-Christ qui vous conforme dans son image, et puis vous avez cette attente d'une glorification, une résurrection future. Et donc, en trois versets, Paul fait allusion à trois grandes doctrines, la justification, la sanctification, la glorification. Et il nous donne un petit résumé de ce que va prendre le livre de Romains tout en entier pour expliquer. Paul regarde toute chose comme une perte afin d'être trouvé en lui, verset 9, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Le thème, comme nous avons dit, c'est la justification, être déclaré juste par Dieu. Alors c'est là où nous devons commencer. Êtes-vous sûr de votre justification devant Dieu? Vous pouvez être sûr du fait que quand Dieu vous voit, quand il va vous déclarer juste, si vous avez la justice de Jésus-Christ. Mais après avoir réglé la question de sa justification devant Dieu, quand il s'agit de sa vie chrétienne, telle qu'elle est vécue au jour le jour, il a cette grande ambition, verset 10, afin de connaître Jésus-Christ. Paul voulait connaître Jésus-Christ. Comme j'ai dit tout à l'heure, cette église a comme devise connaître Christ et le faire connaître. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de connaître Jésus-Christ? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça m'est arrivé de poser des questions là-dessus, il n'y a même pas très longtemps. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une relation avec Jésus-Christ? Est-ce que vous savez que le christianisme, le vrai, hein, est la seule religion au monde qui repose sur la prémisse que notre chef, notre tête, notre fondateur, si vous voulez, est aujourd'hui encore en vie et que vous pouvez le connaître? J'entends jamais parler d'avoir une relation personnelle avec Bouddha, ou avec Mahomet, ou avec les autres fondateurs de religion. Mais pour le christianisme, notre grande passion est de connaître actuellement Jésus-Christ. Et en fait, qu'est-ce que le christianisme s'il n'y a pas cette possibilité de connaître Jésus-Christ? Et ça, c'était la passion de Paul. Vous le voyez dans le verset 10, il voulait connaître Jésus-Christ. Et donc la question se pose, eh bien, qu'est-ce que Paul voulait dire en nous parlant de cette ambition de connaître Jésus-Christ? De quel genre de connaissance parle-t-il? Et donc nous allons poser cette première question, donc, quelle sorte de connaissance désirait Paul? Quelle sorte de connaissance désirait Paul? Il parle d'une connaissance, nous le voyons bien dans le verset 10, mais de quoi parle-t-il exactement? Je crois que nous comprenons, pour utiliser le mot encore, qu'il y a différentes sortes de connaissances dans la vie. Il y a la connaissance, ça peut faire référence à la possession de données factuelles. Hein. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé il y a 100 ans, à cette même date? Ben, bon, j'ai aucune idée, mais si vous le savez, vous avez une certaine connaissance de données factuelles. Hein, vous pouvez savoir combien d'habitants il y a dans la ville, ou dans le pays, etc. Après, il y a une connaissance, peut faire référence aussi à la maîtrise de certaines compétences. On va dire en français, un savoir-faire, qui est une expression qu'on utilise même en anglais, on a piqué du français, hein. Il y a un savoir-faire, c'est-à-dire, quelqu'un peut dire, moi je connais, je sais comment jouer du piano. Je sais comment manipuler un ordinateur. Savoir comment faire ses comptes. Savoir comment parler une certaine langue. C'est un savoir-faire, c'est une compétence qui est acquise. C'est une connaissance. Et puis aussi, la connaissance peut faire référence à une connaissance vécue. On peut dire une connaissance expérientielle. Il y a ceux qui connaissent la guerre, et ce que c'est la guerre. Pas parce qu'ils ont lu beaucoup de livres concernant les guerres d'Europe, ou les guerres d'Afrique, ou etc., mais parce qu'ils ont vécu la guerre. Et donc, ils peuvent dire, je sais ce que c'est, j'ai passé par là, je sais ce que c'est. Donc il y a ces différents types de connaissances, et quand il s'agit de connaître une autre personne, il existe aussi ces différents types de connaissances. Vous pouvez avoir dans votre possession la connaissance de certains faits, certaines données concernant une personne. Je connais le nom du président de la République, donc je sais qui c'est. Je connais qui c'est, en tout cas. Mais c'est tout à fait autre chose que d'avoir une connaissance personnelle, expérientielle, avec cette même personne. Et donc, quand il s'agit de connaître une personne, et nous connaissons plusieurs, j'imagine, chaque personne ici connaît d'autres personnes, avec chaque personne, il y a un niveau différent. Nous les connaissons à un niveau plus profond, moins profond que les autres. Et nous savons que toute connaissance vécue, expérientielle, demande et exige une interaction personnelle. Prenons, par exemple, Napoléon. Hein, je peux lire tome après tome sur la vie de cet homme. J'ai même visité l'hôtel des Invalides à Paris, et j'ai vu son chien et son cheval, vous savez, vous pouvez même voir son cheval favori, le lit et les draps sur lesquels il est mort. J'ai pu visiter son tombeau, j'ai pu visiter des édifices qu'il a construits, marcher sur des ponts, sur des arches construites en son honneur. Ma femme et moi, nous avons visité Waterloo, où il a eu sa grande défaite. Donc, je peux passer ma vie à étudier sa vie, ses exploits, sa chute après. mais je ne pourrai jamais dépasser ce premier niveau de connaissance, c'est-à-dire une connaissance de données factuelles concernant sa vie. Et la raison pour cela est simplement parce qu'il est mort. Il n'est plus là. Je ne peux pas avoir d'amitié avec Napoléon. Et donc, quand il s'agit de connaître une personne, il y a beaucoup de différents niveaux. Il y a une simple connaissance. En fait, on dit cela. Ce n'est pas vraiment une amie, c'est une simple connaissance, on dit. Connaissance. Et puis, plus haut de cette connaissance limitée, il y a quand même l'amitié. Il y a beaucoup de différents niveaux d'amitié aussi. Et puis, plus haut encore, vous pouvez partager une certaine intimité avec une autre personne. Et il y a différents niveaux d'intimité. Et encore plus haut, il y a quelque chose qu'on appelle une âme sœur. Il existe des fois des couples qui, après des années de mariage, ils se ressemblent presque. Parce que vous commencez réellement à façonner l'un et l'autre pour devenir à deux ce que vous n'aurez jamais été tout seul. Vous avez façonné l'un les autres, l'un et l'autre. Et cela arrive à travers une expérience de vie ensemble. Mais pour cela, il va toujours avoir une interaction personnelle. Et je dis tout cela pour dire que c'est de cette connaissance que Paul parle ici. Il ne parle pas ici d'une connaissance de Jésus-Christ, mais d'une connaissance expérientielle, une vie partagée, une amitié, une intimité d'âme jusqu'au point de ressemblance à Jésus-Christ. Et le fait que Paul parle d'une connaissance vécue et non pas strictement intellectuelle est bien évident par ce qu'il dit dans ce même verset. Regardez le verset 10. « Afin de connaître Christ... » Et là, en fait, dans le grec, il y a deux mots. Il y a un mot comme « connaître » et il y a un mot comme « savoir ». C'est plutôt intellectuel. Il ne dit pas ici « je veux savoir Christ, mais je veux connaître Christ ». Mais regarde ce qui suit. « Et la puissance de sa résurrection. » C'est clair quand il dit « je veux connaître la puissance de sa résurrection » qu'il ne parle pas ici d'une simple connaissance intellectuelle. « Je veux savoir la grandeur de la puissance pour réussir un examen. » Non, il veut dans sa vie connaître cette puissance. Il veut sentir cette même puissance bouleverser sa propre vie. Nous avons les Airbus 380, vous savez, qui sont à deux étages, qui passent juste à côté de la maison, et c'est incroyable de les voir. Et on peut étudier sur Internet pour savoir combien de moteurs, la puissance qui existe. Mais c'est une autre chose d'entrer dans l'avion, de s'asseoir, et puis de sentir l'avion qui vous prend, qui vous amène dans l'air, qui vous fait traverser tout un océan pour vous déposer à New York, ça c'est tout autre chose. Et c'est cette connaissance de cette puissance de Christ qu'il voulait savoir, et pas seulement pour lui, mais aussi pour tous les chrétiens. Regardez ce qu'il dit en Éphésiens 1, 18. Il dit, il prie pour les chrétiens, il dit qu'il illumine aussi votre intelligence afin que vous compreniez, et vous allez voir que c'est plus que le simple fait d'une connaissance intellectuelle, parce qu'il veut que vous compreniez quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en faisant agir dans le Christ, en la faisant agir dans le Christ lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts. Et il dit, cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, je veux que vous la connaissiez dans votre vie, pour pouvoir combattre le péché dans votre vie. Vous voyez, ce n'est pas une question de simple connaissance intellectuelle, mais d'une connaissance vécue de cette puissance. Donc il dit, pour revenir à notre texte, afin de connaître Christ. Et puis il dit, et la communion de ses souffrances. Vous voyez cela? Il n'est pas ici, je veux dire tout ce qu'il y a à lire sur la souffrance de Jésus-Christ pour que je puisse donner des séminaires sur la passion de Christ. Non, notez le mot communion, c'est en parallèle avec le mot connaître. C'est comme ça qu'il veut connaître Christ, et même la souffrance qu'a connue Jésus-Christ. Parce que quand on s'identifie à Christ, eh bien Christ encore souffre. Qu'est-ce que Jésus avait dit à Paul quand Paul persécutait l'Église? Il dit, pourquoi me persécutes-tu? Jésus ressent personnellement les persécutions de son Église, Et Paul veut ressentir personnellement la persécution de Jésus-Christ qui se passe encore dans le monde. Et dans le verset 10, il y a les mots « connaître », il y a le mot « communion », et puis un troisième mot qui commence par « C ». Vous le voyez ?« Je veux être conforme », en devenant conforme à lui. Ça, c'est son désir. L'amour de nos jours dit « Je t'aime parce que tu es presque comme moi. Et je t'aimerai tant que tu deviennes de plus en plus comme moi. » Après, si tu changes. Mais cet amour dit « Je t'aime et je veux devenir de plus en plus comme toi. » Ça, c'est l'amour de Paul pour Jésus-Christ. Il veut devenir comme Jésus-Christ. Donc, il désire cette connaissance parfaite, cette communion totale et une conformité complète. Et un théologien exprime bien cette signification du mot « connaissance » quand il écrit, je ne sais pas si vous arrivez à voir, sinon je vais vous le lire. Il dit « Nous avons largement perdu les dimensions bibliques du mot « connaissance » dans notre utilisation habituelle. Nous la limitons presque au contenu du cerveau. » La connaissance est presque limitée à ça. La Bible ne résisterait pas à ce sens, mais elle ne l'accepterait pas non plus en tant que définition complète. Tout d'abord, elle ajouterait une dimension pratique. Rien n'est vraiment connu que s'il est pratiqué dans la vie quotidienne, ou d'une certaine façon permis, selon sa nature, de contrôler le comportement de la personne concernée. Par exemple, en Job 28, il dit « S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Et donc, dans la Bible, le fait de connaître, c'est pas simplement d'avoir des faits stockés dans le cerveau, hein, sur la disque dure de la tête, mais c'est d'avoir une certaine compétence, une dimension pratique. Je le sais puisque je peux le faire, puisque je sais vivre ainsi. Deuxièmement, dans la connaissance entre les personnes, de connaître et d'entrer dans la plus profonde intimité et contact personnel. Pas avoir des faits sur l'autre. Ainsi, la Bible ne dit pas qu'Adam connut Ève, Genèse 4, 1, parce qu'elle est trop timide pour parler ouvertement des questions sexuelles, mais parce que c'est cela qui est une vraie connaissance entre deux personnes, une union profonde et intime. Par conséquent, après avoir été sauvé entièrement et uniquement par Christ, Paul veut entrer dans l'union la plus profonde et possible avec lui. Ça, c'est l'ambition du chrétien. Pas d'acquérir plus de connaissances intellectuelles sur Christ, même si c'est nécessaire pour pouvoir avoir une relation avec lui, mais pour entrer dans cette union profonde et intime avec Jésus-Christ. Donc, le vrai christianisme n'est pas avoir uniquement une connaissance académique de certains faits théologiques. C'est pas ça être chrétien, hein, de dire trois fois de suite « je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien » et puis voilà, c'est fait. Non, c'est d'avoir une relation vivante, dynamique, personnelle avec le Christ. Donc, après avoir parlé de sa foi en Christ en ce qui concerne sa justification, verset 9, il parle ici, verset 10, de son but et son désir pour sa vie chrétienne. Il voulait vraiment connaître Jésus-Christ. Et malheureusement, nous parlons du christianisme de nos jours comme une religion, et on va compter, il y a tant de chrétiens dans ce pays parce qu'ils adhèrent ou ils se font baptiser ou quelque chose comme ça. Mais le vrai christianisme de la Bible, c'est une connaissance, une relation intime avec Jésus-Christ. Nous voulons connaître Christ et le faire connaître. Alors, est-ce notre ambition? Vraiment? Cherchons-nous à nous ressembler au plus profond de notre être, à l'image de Jésus-Christ? Peut-on dire de vous que votre ambition est de connaître Jésus-Christ? Et j'ai lu une fois une illustration, et j'y pense parce que j'habite à côté d'un aéroport, Mais quelqu'un qui a dit que beaucoup de chrétiens connaissent Christ comme un touriste qui arrive dans un pays mais qui ne quitte jamais l'aéroport. Et puis il dit, oh, j'ai passé un très beau voyage. Quel bel aéroport. Qu'est-ce que j'ai aimé ce terminal 2C, qu'il était beau. Et puis ces tapis roulants, c'est vraiment top. Et ces agents de sécurité, et ces boutiques. Oh, j'adore la France. Et puis il repart dans son pays. Et qu'est-ce qu'il a vu? Ben, il a vu Charles de Gaulle. Et rien de plus. Et il y a des chrétiens qui sont un peu comme ce touriste qui arrive dans le pays, mais qui passe le reste de la vie à jouer sur les tapis roulants de l'aéroport sans vraiment sortir dans le paysage pour connaître ce qui existe. Et voici la grande ambition de Paul. Elle doit être aussi la nôtre, connaître personnellement, intimement, de plus en plus, de façon vécue, Jésus. Et si on veut vraiment connaître Jésus, on va le démontrer par notre ambition qui va se démontrer dans l'action. Et ça, ça soulève la question de savoir comment. Comment peut-on connaître Jésus-Christ intimement? Si quelqu'un est vraiment désireux de connaître quelqu'un, il va utiliser les moyens pour que cela arrive. Quand un jeune homme est ambitieux de connaître une jeune fille, il montre son ambition dans l'action. Tout d'un coup, il démontre une créativité que lui-même ne savait pas qu'il avait auparavant. Parce qu'il est ambitieux de la connaître. Et si vous voulez connaître Jésus-Christ plus intimement, que devez-vous faire? Et je pense qu'il est utile à ce point de sortir un peu même du texte et de considérer ce thème d'une façon thématique et théologique. Et donc, je veux que nous posions cette question. Comment un chrétien peut-il poursuivre une plus grande connaissance du Christ vivant? Nous avons établi le fait que l'ambition de Paul, et pour le chrétien aussi, doit être de connaître Jésus-Christ intimement. Alors c'est une importance capitale que nous comprenons comment le faire. Je ne parle pas ici de comment connaître Jésus-Christ comme sauveur du péché. C'est par la repentance et la foi en Jésus-Christ. Mais je parle ici aux chrétiens qui sont déjà chrétiens, qui veulent connaître Christ de cette façon personnelle et vitale. Comment poursuivre une relation personnelle avec Jésus-Christ? Et cette question est immense. Hein, et on ne peut pas espérer couvrir toutes les bases. Mais je veux d'abord nous mettre en garde contre certains des dangers les plus répandus. Et surtout un piège que je trouve immense dans la vie, lors d'une tentative à parvenir à une connaissance plus profonde de Jésus-Christ, et c'est l'écueil du mysticisme. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est dans le christianisme ou dans n'importe quelle religion, en fait, le mysticisme? C'est pas une personne forcément qui est sentimentale, ou qui met l'accent sur les aspects expérientiels et subjectifs de la vie chrétienne. C'est pas forcément ça. Le mysticisme, dans son essence, c'est la tentative de connaître, d'avoir l'expérience de Dieu, sans agent ou moyen intermédiaire. Donc, dans le premier sens du mot, immédiatement, c'est-à-dire sans moyen. Le mysticisme et la croyance qu'en dehors de toute aide extérieure, vous entrez directement dans une expérience de la présence de Dieu. Souvent, c'est décrit comme le fait de regarder au plus profond de votre âme pour répondre à la présence de Dieu qui demeure en vous et de l'imaginer assis à côté de vous, etc. Et nous pouvons inventer des choses vraiment fantasmagoriques. Hein, pour vraiment connaître Jésus, il faut faire ainsi. Et dans les assemblements écuméniques, où il y a plusieurs religions, ils reviennent plus souvent à cette idée de mysticisme parce qu'ils ne veulent pas définir Dieu, ils ne veulent pas définir la prière, ils ne veulent rien définir. C'est qui a Dieu, on ne va pas dire qui c'est, comment le connaître. Et donc, le mysticisme règne, comme si on peut entrer directement en contact avec Jésus-Christ. Il y a même des chansons qui nous mènent un peu dans cette direction. Nous chantons un qui dit « Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu ». Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas chanter ce chant, mais il faut définir qu'est-ce que c'est cette montagne où l'on rencontre Dieu. Et il faut bien comprendre le mysticisme et les émotions sont deux choses différentes, hein, mais ils viennent souvent dans le même paquet. Souvent, quand il y a beaucoup d'émotions, il y a aussi le mysticisme. Mais une chose est certaine, c'est que lorsque Paul dit « ma passion, c'est de connaître Christ », il ne parlait pas d'une simple sentimentalité, ou d'un mysticisme, ou d'une expérience de Dieu sans intermédiaire, sans moyen. En d'autres termes, ce n'est pas forcément sur la montagne de la sentimentalité que l'on rencontre Dieu. Le problème avec une telle sentimentalité mystique et sans médiation, c'est que aussi spirituel que cela puisse être, et nous vivons dans des jours où les gens sont très spirituels, je ne sais pas si vous notez, mais même les gens qui n'aiment pas la religion ou n'aiment pas une certaine religion se sentent quand même très spirituels. Et donc, on peut partager des fois une spiritualité avec quelqu'un d'autre qui ne partage même pas nos croyances. Mais la Bible ne nous ordonne jamais d'avoir ni de décrire une telle expérience mystique. Donc rappelez-vous que le mysticisme, c'est la tentative de connaître Dieu sans ayant recours aux moyens qui nous sont prescrits. Ceci dit, Dieu a prescrit, il a institué des moyens pour nous utiliser. Et c'est seulement grâce à un bon usage de ces moyens que nous pouvons vraiment connaître Jésus-Christ. Et quand nous le considérons dans la Bible, il y a des moyens qui sont très larges et généraux et donc moins utiles, et d'autres sont très spécifiques par nature et donc plus utiles. Et donc, permettez-moi de commencer par ce qui est plus large, des moyens donnés. J'emprunte ces catégories de Donald Whitney. Nous pouvons chercher en tant que chrétiens à connaître Christ dans la vie quotidienne d'une manière qui est informée par sa parole. Donc nous allons prendre la parole de Dieu et elle va nous informer sur notre vie quotidienne. Par exemple, nous chantons « Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends, j'erre et j'entends les oiseaux chanter, quand sur les monts la source avec son onde, libre aux zéphyrs son chant doux et léger, mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. » Alors voilà, il va dans la forêt, il entend les oiseaux chanter, la source d'eau, et voici quelqu'un qui fait bon usage de la forêt, des oiseaux, des monts, de la source d'eau, comme des aides à sa vie spirituelle. Alors est-ce approprié? Oui. Très approprié, parce que nous pouvons chercher à connaître Dieu dans la vie quotidienne d'une manière qui est informée par sa parole. La Bible dit que toute la création déclare la gloire de Dieu, le psaume 19. De sorte qu'il serait approprié de voir dans la nature quelque chose de la gloire de Dieu. En fait, ce serait un péché de ne pas la voir. C'est une révélation générale, bien sûr, mais c'est une révélation actuelle. Une révélation continuelle, c'est-à-dire Dieu continue à se révéler dans la nature. Ce n'était pas pour l'époque, il y a 100 ans ou il y a quelques époques de cela. Dieu continue à se révéler d'une façon générale à travers la nature. Il révèle sa force, sa grandeur, sa majesté. Donc Dieu nous parle d'une façon très générale dans la nature, donc écoutons-le. Écoutons-le. Et ce n'est pas seulement dans la nature, mais aussi dans les actes de providence, dans l'histoire, et ainsi à travers nos consciences qu'il se dévoile. Et donc un croyant, quand il arrive à se reposer sur le fait que Dieu est souverain, qui contrôle toutes choses, il commence à voir la main de Dieu à l'œuvre partout. Il a un œil qui est formé pour voir Dieu à l'œuvre. C'est un peu comme si vous achetez un nouveau portable, téléphone portable. Tout d'un coup, vous remarquez tous les autres portables qui sont pareils que le vôtre, n'est-ce pas? Ou une voiture ou quelque chose d'autre. Et c'est comme ça, vous voyez, vous réalisez que c'est Dieu qui travaille, c'est Dieu qui contrôle cette situation, et tout d'un coup, vous voyez sa main à l'œuvre partout, parce que c'est ce que vous cherchez. Vous avez un œil qui est entraîné pour voir cela. Et donc c'est une merveilleuse chose de voir la main de Dieu dans la grippe que j'ai attrapé au travail, ou même l'embouteillage sur le chemin de retour, la chose que j'ai oubliée à la maison. Toutes ces choses, Dieu les contrôle, même au plus petit détail. Et c'est une bonne, belle chose d'être en mesure d'utiliser ces, ce que j'appelle des fois les surprises providentielles, hein, parce que c'est inattendu, de la vie comme occasion de se réjouir en Christ et de faire croître ma foi dans sa sage gouvernance des choses. Quelqu'un a dit, la sagesse de Dieu lui fait toujours savoir ce qui est mieux pour moi. L'amour de Dieu lui fait toujours choisir ce qui est mieux pour moi. Et la puissance de Dieu lui permet de toujours m'apporter providentiellement ce qui est le mieux pour moi. Donc nous avons Dieu qui est tout sage, tout bon, il est amour, et tout puissant. Et la Bible nous dit que Dieu dirige même les pas de l'homme juste. Alors ce serait certainement bon et juste de voir et de chercher à connaître les voies de Dieu dans mes pas qu'il dirige, les événements providentiels de tous les jours. Dieu est à l'œuvre. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que je peux apprendre de Dieu à travers ces circonstances? Donc nous pouvons chercher à connaître Dieu dans la vie quotidienne d'une manière qui est informée par sa parole. Il y a un sens dans lequel nous pouvons connaître Christ à l'aide de ses moyens, de la création, de la providence, de la conscience. Mais cela est très large, n'est-ce pas? Très large. C'est comme si, déjà, on connaît un peu l'adresse de quelqu'un, on est peut-être même amis sur Facebook, mais ça ne veut pas dire qu'on a une vraie connaissance de comment elle est, et de ce qu'elle aime, et de sa personnalité. Il faut quelque chose de plus, il faut quelque chose de plus spécifique, à travers lequel nous pouvons développer cette connaissance vécue et expérimentale de Christ. Et donc on peut dire en deuxième lieu que nous pouvons chercher à connaître Dieu dans les expériences qui sont fondées sur sa parole. Donc au lieu de voir dans la vie tout entière, il y a des choses dans la parole que Dieu nous donne, des expériences, des exercices si vous voulez, qui sont fondées sur sa parole et qui nous mettent en relation plus proche à Jésus-Christ. Avant, les chrétiens utilisaient souvent l'expression « les moyens de grâce ». Et ils parlaient des moyens de grâce. Et ces moyens de grâce étaient ces institutions que Dieu a ordonnées d'être les canaux ordinaires de sa grâce. C'est-à-dire, pour connaître la grâce de Dieu, il y a des moyens d'aller dans la Bible. On ne va pas aller dehors et dans la forêt faire le yoga, ça on ne trouve pas dans la Bible. Il y a des moyens fondés sur la Bible qui nous mettent en relation avec Jésus-Christ, par lequel ou par lesquels nous pouvons chercher à connaître Christ. Ce devient donc les moyens de grâce. Quels sont ces moyens? Si vous y réfléchissez, la prière, n'est-ce pas, est un de ces moyens. C'est en invoquant le nom du Seigneur que les hommes sont sauvés. Jacques 1, 5 nous dit, si quelqu'un... j'ai pas encore ce verset. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si vous voulez la grâce de la sagesse, demandez-le à Dieu. Les ordonnances, le baptême, la scène du Seigneur devient des moyens de grâce, pas dans le sens qui véhicule la grâce automatiquement, non, pas de tout. Pas de tout. Mais le Saint-Esprit peut les utiliser lorsqu'ils sont mêlés avec foi pour animer la foi du croyant dans les réalités spirituelles qui dépeignent. En fait, peut-être que vous pouvez trouver avec moi Acte 2, versets 41 et 42. Acte chapitre 2 et verset 42. Je vais commencer à lire au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Acte 2, 41. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Donc il y a 3000 âmes qui sont converties maintenant, qui veulent connaître Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire pour connaître Jésus-Christ? Eh bien, verset 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, parce que c'est eux qui donnaient l'enseignement du Christ, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Parce qu'ils voulaient connaître Christ, ils persévéraient dans ces choses, les moyens donnés fondés sur la Bible par lesquels Dieu nous amène dans une communion plus profonde avec Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que cela nous dit? si ce n'est que l'Église primitive grandissait dans la connaissance de Christ en persévérant dans la doctrine apostolique et la communion fraternelle et dans les prières et dans la fraction du pain. Ils avaient cette passion de connaître Christ. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les moyens à leur disposition pour connaître Jésus-Christ. L'adhésion à l'enseignement apostolique, la communion avec les autres croyants, les prières, clairement pas d'ici dans le cadre personnel ou même familial, mais dans le cadre de l'Église locale, et dans la fraction du pain, également dans le cadre de l'Église locale. Et ce verset décrit presque notre culte de dimanche. N'est-ce pas? Mais ça, ils le faisaient tous les jours. Alors, pourquoi un si long détour? Voici ma raison. Veuillez bien écouter. Je pense que nous avons tendance à être des mystiques en pratique. On a parlé ici avant d'un athée pratique, ou un athée en pratique. Quelqu'un qui va dire, oui, il y a un Dieu, mais il vit sa vie comme s'il était athée et comme s'il n'y avait pas de Dieu. Et je pense qu'en tant que chrétien, nous ne sommes pas des mystiques théologiques, mais des mystiques en pratique. C'est-à-dire, nous ne prétendions jamais que nous pouvons connaître Christ dans un sens intime, en dehors des moyens qu'il a révélé pour nous dans l'Écriture. Nous ne sommes pas des mystiques théologiques ou théoriques, mais nous sommes des mystiques en pratique, c'est-à-dire quand il s'agit de notre vie quotidienne. Écoutez bien, nous vivons comme si nous pouvons connaître Jésus-Christ en dehors de ces moyens qu'il a ordonnés. Quelqu'un dit, oh, ma passion, c'est de connaître Jésus-Christ. Très bien, la parole vous donne quelques pratiques spécifiques qui peuvent vous aider à connaître Christ plus intimement. Assister régulièrement à l'Église. Rechercher la communion avec d'autres croyants. Aller à la réunion de prière. Prier avec vos frères et sœurs. Vous voyez, nous disons une chose pour que nous vivons comme si nous pouvons connaître Christ en dehors de ces moyens qui sont prescrits pour nous. Beaucoup de ces moyens sont associés avec le culte public du peuple de Dieu réuni. Et en fait, c'est tellement important que nous avons ce commandement. Dieu nous commande sans hésitation. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela d'autant plus que vous voyez le jour approcher, le jour du Seigneur. Donc, quelqu'un qui a une vraie passion pour connaître Jésus-Christ, le connaître intimement au point de devenir semblable à lui, il fera usage de tous les moyens à sa disposition. En particulier, ces exercices spirituels qui sont conçus par Dieu pour le mettre en communion avec Jésus-Christ. Et donc, cela avant la réunion de prière, même, pas une corvée, mais un privilège. Voici un autre moyen d'apprendre plus de Jésus-Christ, de devenir plus intime avec lui. Ne soyez pas comme le gars qui a dit à son fiancé, tu sais, j'irai n'importe où pour toi, je grimperai la plus haute montagne, je traverserai le plus grand torrent, et je viendrai te voir samedi s'il ne pleut pas. Hein? On dit cela à Dieu, Dieu, je ferai tout pour toi, je t'aime tellement, je veux te connaître, et j'irai à l'église s'il ne pleut pas. Voilà. C'est possible, et ça arrive malheureusement. Et je ne prétends pas connaître vos circonstances, hein. C'est à vous de voir si c'est une question de vouloir ou de pouvoir. Mais tout ce que je veux dire, c'est que celui qui met une grande valeur sur la connaissance de Christ, mettra une grande valeur sur les moyens mis à sa disposition pour promouvoir cette connaissance. Si vous voulez vraiment connaître Christ, vous allez utiliser les moyens qui vous sont donnés. Et c'est pour cela que nous avons des réunions, pas pour juste faire quelque chose, mais pouvoir promouvoir cette communion, cette connaissance de Christ, même parmi les croyants. Et si vous regardez un peu l'histoire de l'Église, vous voyez que chaque Église locale, pendant l'histoire, s'est réunie plusieurs fois pendant la semaine pour encourager ces choses. Donc, nous pouvons connaître Christ et Dieu dans la vie quotidienne d'une manière qui est informée par sa parole, très large. Nous pouvons chercher à connaître Dieu dans les expériences qui sont fondées sur sa parole, la prière, etc. Mais ce qui est le principal moyen de sa grâce, c'est-à-dire l'instrument principal ordonné par Dieu pour être le canal de ses influences spirituelles qui vient de lui, ce qui est indispensable même au salut, mais aussi pour nous en tant que croyants, c'est quoi? Comment est-ce que nous pouvons connaître Jésus-Christ? Bien, c'est à travers sa parole. Nous devons chercher à connaître Dieu et Christ à travers sa parole. Sa parole à la fois prêchée et lue. Après tout, c'est par la parole de Dieu que nous savons comment utiliser correctement les expériences fondées sur la parole. La Bible dit en Romains que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de quoi? La parole de Dieu. J'imagine que vous avez rencontré avant un garçon ou une jeune fille, peut-être même un jeune adulte, qui était tellement captivé par un certain personnage, par un sportif ou quelque chose, que sa seule passion dans la vie, c'est devenir de plus en plus comme l'autre personne. C'est son héros, c'est son idole. Et parfois, ce jeune homme ou cette jeune fille tente d'obtenir toutes les informations qu'elles peuvent sur cet autre personnage, sur son idole. Et puis, elle veut connaître tout ce qu'il y a, elle veut avoir des photos, des images, etc. Et comme si elle pensait que le fait de connaître ces choses allait le rendre plus comme l'autre personne. C'est-à-dire, le fait de connaître tout ce qu'on peut connaître sur un footballeur, par exemple, va me rendre un meilleur joueur de foot. Mais j'ai des mauvaises nouvelles, hein, ça ne marche pas. Nous pouvons lire toutes les biographies écrites sur Einstein et elles ne nous feront pas un génie. Vous pouvez apprendre tout ce qu'il y a à apprendre sur Mozart et cela ne fera pas de vous un musicien. Vous pouvez lire tous les articles de votre footballeur préféré, cela ne vous aidera pas à mettre le ballon dans la cage. Mais ceci, et ceci est étonnant, hein, savez-vous que quand il s'agit de la connaissance de Christ, ça marche en fait comme cela. C'est-à-dire la recherche de cette intimité produit une ressemblance. On le voit même à la fin du verset 10. Que vouloir connaître Christ et la communion de ses souffrances le rend conforme même à Jésus-Christ. Voici ce que je veux dire. Il y a un livre qui va non seulement vous dire tout ce qu'il y a à savoir concernant cette autre personne, mais en fait, par votre lecture, vous serez transformé pour que vous commenciez à devenir de plus en plus comme lui. Alors, permettez-moi de vous citer un verset et vous demander de trouver le second. Le second sera en 2 Corinthiens 3, si vous voulez déjà y aller. Et je vais vous lire Jean 17, verset 17, où Jésus prie, « Sanctifie-les par la vérité, ou par ta vérité. » Et puis, qu'est-ce qu'il dit après cela? « Ta parole est vérité. » « Sanctifie-les. » Tu veux les changer depuis l'intérieur par ta parole. Non, par ta vérité, et c'est ta parole qui est la vérité qui va les sanctifier. Donc, en tant que moyen de grâce, la parole de Dieu est aujourd'hui efficace dans l'âme des croyants, croyant comme l'outil principal de la sanctification. Voulez-vous être vraiment comme Christ? Eh bien, c'est le moyen qu'il utilise. Ne soyez pas un mystique qui prétend, qui pense qu'il peut devenir comme Christ en ignorant la Bible. Ça ne se fera pas. On ne peut pas laisser la Bible du côté et devenir comme Jésus-Christ. Regardez 2 Corinthiens 3, verset... On va commencer au verset 15, verset 18 que je veux voir. Et Paul, dans ces versets, juste pour vous donner un peu le contexte, il révèle les avantages de la vie nouvelle en Jésus-Christ. 2 Corinthiens 3. Et il le met en opposition avec celle des Juifs, qui essayaient de comprendre les Écritures tout en rejetant Christ. Ça ne marche pas. Ils avaient les yeux voilés. Donc il dit au verset 15, 2 Corinthiens 3, verset 15, « Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, la loi, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, c'est-à-dire au Seigneur Jésus, le voile est ôté, est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Maintenant, voici l'un des versets clés sur la transformation spirituelle, verset 18. Nous tous, qui le visage découvert, c'est-à-dire nous n'avons plus ce voile, nous voyons Christ maintenant dans la Bible, nous contemplons comme dans un miroir, une référence à la parole de Dieu, la gloire du Seigneur. Nous regardons dans la Bible la gloire du Seigneur. Nous sommes par ceci, quel est le mot qui suit ? Transformés en la même image de gloire en gloire, c'est-à-dire d'une étape de gloire à une autre étape de gloire, à une autre, pas tout d'un coup, comme par le Seigneur l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui agit. La Bible est une Bible vivante, la Bible est un livre avec puissance parce que l'auteur y est toujours présent. L'Esprit travaille et il utilise la Bible. S'il n'y a pas l'Esprit, ben, il n'y a pas d'espoir. Et voilà comment cela fonctionne. La personne qui met une grande valeur sur la connaissance de Christ mettra une grande valeur sur la Bible. Il y avait, quand j'étais pasteur aux États-Unis, un homme, il avait 90 ans, mais vraiment, il aimait Dieu et il avait une personnalité qui était formée même par la Bible. Et donc, je lui posais la question une fois, qu'est-ce qu'il faisait comme lecture depuis sa retraite? Bon, il était retraité depuis des années. Il dit, bon, normalement, quand je reviens à la maison, je lis un livre chaque soir. Un livre de la Bible. Et ça se voyait dans sa vie. Et si seulement nous pouvions saisir la vérité, dans la chanson que chantent nos enfants, lis ta Bible, prie chaque jour, si tu veux, crois. Grandir, c'est vrai, ça c'est une vérité fondamentale. La vie spirituelle est vraiment une vie simple, c'est une vie qui se sert des moyens que Dieu a prévus pour que nous puissions croître dans la grâce et dans la connaissance de Jésus-Christ. Et Dieu utilise ces moyens, tous les moyens qui reflètent la gloire du Seigneur. C'est pour ça que la Bible est la meilleure, parce qu'elle reflète le plus la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu dans la création, oui, mais nous voyons vraiment la gloire de Dieu, sa grâce, la gloire de sa grâce et les richesses de sa sagesse dans la parole de Dieu. Et nous sommes métamorphosés, nous sommes changés dans la même image du Christ de gloire en gloire en gloire. Nous avons parlé ici des moyens, mais nous n'avons pas le temps de parler de la manière, c'est-à-dire en quelle manière est-ce que c'est avec humilité, en confessant nos péchés, que nous devons garder cette relation avec Christ. Mais je termine avec cette question. Quelle est notre passion dans la vie? S'agit-elle vraiment de connaître Jésus-Christ? C'est vraiment de connaître Jésus-Christ, votre ambition se montrera en action. Et avant tout, qu'est-ce que vous faites avec votre Bible? Alors que Dieu nous aide à chercher Christ de tout cœur. Prions.